Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 27 août 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le président iranien Ibrahim Raisi a qualifié les relations Téhéran-Islamabad de longue date, fondées sur le peuple. 80 civils ont été tués lors des attentats terroristes à Kaboul, en Afghanistan. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné ces attentats des terroristes. Des responsables gouvernementaux tunisiens et libyens discutent de la sécurité et de la réouverture des frontières. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Lors d'une rencontre à Téhéran avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères, le président iranien a qualifié les relations entre Téhéran et Islamabad de longue date, fondées sur des croyances communes et axées sur le peuple. Et il a déclaré « Les relations économiques et commerciales entre les deux pays ne sont pas satisfaisantes et nous devons augmenter le niveau de ces relations dans l'intérêt de nos nations avec une bonne planification. » Le président Raisi, lors de cette rencontre à Téhéran avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères, a déclaré que le retrait des forces américaines d'Afghanistan pourrait être un tournant pour tous les groupes et ethnies afghans dans leurs efforts pour établir la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. L'Union européenne s'est déclarée prête à s'engager avec le nouveau gouvernement iranien et a déclaré qu'il était impatient de remettre les négociations sur le nucléaire sur les rails. Nous avons pris note du processus de nomination et du processus d'approbation qui s'est achevé au Parlement iranien, a déclaré le porte-parole principal de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Nous, membres de l'Union européenne, sommes prêts à nous engager avec le nouveau gouvernement conformément à la politique de l'Union européenne envers l'Iran, a-t-il déclaré. Des dizaines de civils afghans ont été tués lors des attentats terroristes à Kaboul. Le bilan des morts pourrait s'alourdir. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné avec fermeté ces attentats terroristes, appelés à l'ouverture des enquêtes pour identifier et punir les auteurs de ces attentats terroristes. Des dizaines de civils afghans et au moins de 13 membres de l'armée américaine ont été été tués et bien d'autres blessés dans les attentats terroristes à la bombe à Kaboul, des attentats revendiqués par le groupe terroriste Daesh. Nous pouvons confirmer qu'un certain nombre de militaires américains ont été tués lors de l'attaque complexe d'aujourd'hui à l'aéroport de Kaboul, a déclaré l'attaché de presse du Pentagone dans un communiqué. De son côté, un haut responsable afghan de la santé a déclaré que des 90 civils afghans étaient morts et plus de 100 autres blessés. Le bilan des morts pourrait de s'alourdir. En Syrie, un certain nombre de terroristes refusant le règlement ont été évacués du quartier de Dar al-Balad dans la ville de Daraa avec des membres de leur famille en prélude de mettre fin au contrôle exercé par les terroristes sur le quartier et engagé le retour de tous les établissements étatiques. Le correspondant de l'agence de presse syrienne Sana à Daraa a fait savoir qu'avec le rapprochement de la fin du délai défini pour la sortie des terroristes, deux bus étaient entrés via le point de passage de Jumbruk al-Qadim dans la zone de Dar al-Balad où 45 terroristes avec un certain nombre de membres de leur famille étaient montés dans les autobus qui s'étaient ensuite orientés vers le nord en exécution de l'accord de conclu sur l'évacuation des terroristes rejetant le règlement, la régularisation de la situation des personnes recherchées, la stabilisation du quartier et le déploiement des points de contrôle militaires. A signalé qu'au cours de ces derniers jours, les unités de l'armée des Syriennes avaient consolidé leurs points de contrôle et les renforts pour mettre fin au contrôle exercé par les terroristes sur certaines zones à Daraa, parallèlement au fait d'accorder la priorité au règlement pacifique en dépit des attaques terroristes répétées contre les civils et les militaires de l'armée syrienne. Les responsables gouvernementaux tunisiens et libyens discutent de la sécurité et de la réouverture des frontières. Une délégation gouvernementale libyenne de haut niveau a effectué une visite de travail en Tunisie pour coordonner avec des responsables tunisiens certaines questions d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et la réouverture des frontières, selon le ministère tunisien des Affaires étrangères. Une réunion a eu lieu sous la coprésidence du ministre tunisien des Affaires étrangères, Osman Jarandi et de son homologue libyenne Najla Al-Manrouch, accompagné de plusieurs ministres du gouvernement d'Union nationale libyen. Dans une déclaration, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales entre la Tunisie et la Libye et de les porter au niveau d'un partenariat stratégique efficace et solidaire. Le ministre algérien de la Défense a fait état de l'arrestation d'un terroriste dans l'est du pays. Un terroriste qui a rejoint les groupes terroristes en 1994 a été capturé mercredi par l'armée algérienne à El Milia, une localité relevant de la province de Djiel, située à 435 km à l'est d'Alger, indiqué dans un communiqué le ministère algérien de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée algérienne a capturé dans la matinée du 25 août 2025, suite à une opération de fuite et de ratissage, le dangereux terroriste Lawar Fahim dit Naïm, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994 en tant qu'un infirmier pour ses ordres criminels, précise le communiqué. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Algérie, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. We'll be right back. L'Iran et le Pakistan déterminés à promouvoir leur coopération bilatérale, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Lors d'une rencontre à Téhéran avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmoud Qureshi, le président iranien Ebrahim Raisi a qualifié les relations entre Téhéran et Islamabad de longue date, fondées sur des croyances communes et axées sur le peuple, déclarant les relations économiques et commerciales entre les deux pays ne sont pas satisfaisantes et nous devons augmenter le niveau de ces relations dans l'intérêt de nos nations avec une bonne planification. Le président Raisi, toujours lors de cette rencontre avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères en visite à Téhéran, a déclaré que le retrait des forces américaines d'Afghanistan pourrait être un tournant pour tous les groupes et ethnies afghans dans leurs efforts pour établir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. Il ne fait aucun doute que la présence américaine en Afghanistan et dans la région ne conduit pas à la sécurité. Par conséquent, les pays de la région doivent se donner la main et aider divers groupes en Afghanistan à former un gouvernement inclusif et coopératif, a-t-il souligné encore. Le président Raisi a noté que la République islamique d'Iran sollicite l'aide des pays de la région pour établir la paix et la sécurité dans la région, sans compter sur l'ingérence étrangère. La présence des États-Unis et des étrangers dans la région non seulement ne conduit pas à la sécurité, mais crée également plus de problèmes, a-t-il déclaré. Il a affirmé que les pays de la région, en particulier l'Iran et le Pakistan, peuvent ouvrir la voie à différentes ethnies et groupes en Afghanistan pour coopérer les uns avec les autres, pour apporter la paix dans leur pays et façonner leur propre destin. Le président iranien a déclaré que le paternalisme et le rôle de grand frère en Afghanistan étaient une approche ratée que les États-Unis avaient poursuivie dans ce pays déchiré par la guerre, ne tant qu'une telle approche ne conduirait pas à la paix et à la stabilité en Afghanistan. Il a précisé que les États voisins ne devraient jouer qu'un rôle de facilitateur en Afghanistan afin qu'un gouvernement inclusif puisse être formé dans le pays. Pour sa part, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a qualifié les relations de Téhéran-Islamabad d'historiques et de profondes, soulignant les positions similaires des deux pays sur de nombreuses questions régionales et internationales. Le Pakistan cherche à approfondir et à renforcer les relations entre les deux pays dans divers domaines économiques, politiques et régionaux, et nous sommes déterminés à améliorer encore le niveau de nos relations, a-t-il déclaré encore. Qureshi a également transmis l'invitation du Premier ministre pakistanais Imran Khan à Raisi à se rendre au Pakistan. Il a souligné l'importance de la coopération et de la coordination entre Téhéran et Islamabad pour parvenir à une stabilité et une paix durable en Afghanistan. La République islamique d'Iran est un acteur majeur des développements régionaux. Par conséquent, nous pensons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons avoir une coopération positive et utile pour établir et renforcer la paix et la stabilité dans la région, en particulier en Afghanistan, a-t-il conclu.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder de cette récente visite effectuée par le ministre japonais des Affaires étrangères à Téhéran. À Téhéran, le ministre japonais des Affaires étrangères, Moshihito, a abordé avec les autorités iraniennes, très particulièrement le ministre sortant iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et Amir Abdullahian, l'actuel assistant pour les affaires internationales du Parlement iranien, qui est proposé par le président Raisi au Parlement iranien pour occuper le poste du futur ministre iranien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie de Nippon a abordé à Téhéran avec les autorités iraniennes les moyens permettant de renforcer la coopération bilatérale. Il était également question de parler de ce plan global d'action conjoint, l'accord nucléaire de 2015. Ce sujet a été évoqué par le chef de la diplomatie japonaise lors de sa rencontre avec le président iranien Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi qui a en fait critiqué la position adoptée par les États-Unis sur ce sujet, les Américains qui se sont retirés en 2018 unilatéralement de l'accord nucléaire. Et s'agissant en fait de la position adoptée par les Européens, l'Iran reproche aux Européens de ne pas respecter, si vous voulez, les engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Pour vous en parler, j'ai le plaisir avec moi pour cette émission un économiste, analyste politique, M. Xavier Dupré. M. Dupré, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie, ça fait très longtemps, c'est un plaisir.
Et l'autre vie, ça fait un bail quand même, ça fait un bail, mais c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau pour parler de cette visite à Téhéran du ministre nippon des Affaires étrangères. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un analyste politique français qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Merostin, bonjour à tous vos auditeurs et je suis très heureux aussi de retrouver M. Dupré.
Merci. M. Dortiguier, si vous le permettez, on va commencer notre émission d'aujourd'hui avec M. Dupré. Oui. M. Dupré, je viens de lancer le sujet, cette visite à Téhéran du chef de la diplomatie iranienne. Quelle analyse portez-vous sur cette visite à Téhéran du ministre nippon des Affaires étrangères, s'il vous plaît?
Alors je crois que dans un tout premier temps, il faut relever le fait que le chef de la diplomatie nippone a, à l'occasion de cette rencontre, dénoncé les exigences excessives des États-Unis. C'est un point important, puisqu'un poids lourd de l'économie mondiale, qui par ailleurs est un pays asiatique, le Japon, dénonce aujourd'hui en réalité un double discours de la part des Occidentaux. D'un côté, il y a Joe Biden qui a été élu sur la promesse de relancer des négociations constructives avec l'Iran. Ça, c'est du côté du discours officiel. Mais du côté de la pratique, on observe depuis son entrée en fonction très peu de volonté de faire aboutir un dossier qui n'aurait jamais dû poser problème, puisqu'il faut quand même rappeler que le retrait des États-Unis a été unilatéral et contraire au droit international. Il suffisait, dès son entrée en fonction, de se démarquer profondément de son prédécesseur. Il ne l'a pas fait. Et autre double discours des Occidentaux, là, c'est du côté des Européens. Les grands pays européens, la France, l'Allemagne, dénonce du bout des lèvres seulement les manquements de la partie américaine, mais n'ont jamais de leur côté refusé l'application des sanctions. L'ensemble des acteurs économiques européens appliquent des sanctions et on a vu quelques bricolages avec Instex notamment du côté de la Commission européenne, mais jamais les Européens n'ont opposé un refus à l'interdiction qui leur avait été faite d'importer du pétrole iranien, de telle sorte que le mécanisme Instex ne pouvait pas fonctionner, puisque la partie iranienne ne pouvait pas légitimement en retirer un bénéfice économique légitime. Donc voilà, je crois que c'est un élément très important. Cela pourrait annoncer aussi une forme de déblocage de fonds qui sont aujourd'hui qui se trouvent aujourd'hui auprès des banques nippones pour 3 milliards de dollars et qui sont bloqués suite aux sanctions unilatérales injustes et illégales qui ont été remises sur la table par Washington en 2018. Donc c'est un signe très positif. Il y a aujourd'hui dans le camp des grandes nations industrialisées des gens qui ont peut-être le courage que nous, Européens, n'avons pas eu de contester. Quant au fond, et pas seulement quant à la méthode, l'approche des États-Unis. Mmh.
Monsieur Dortiguet, vous avez été d'écouter l'analyse de Monsieur Dupré. S'agissant de la position européenne, Monsieur Dupré estime que voilà, les Européens ont critiqué les manquements de la partie américaine s'agissant, si vous voulez, de cet accord nucléaire de 2015 et de ce retrait unilatéral des États-Unis de cet accord en 2018 et qui est contraire au droit international, comme l'a dit M. Dupré. Mais M. Dupré dit que voilà, c'est vrai, les Européens ont critiqué les manquements de la partie américaine, mais ils ont refusé également l'application des sanctions contre l'Iran. Et est-ce de votre avis également, M. Dortiguet?
Oui, en effet, ils ont refusé l'application des sanctions contre l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ont, disons, les Européens sont dans une très mauvaise situation. Il y a une partie des Européens comme nous, en France par exemple, qui sommes entravés par notre situation désastreuse du point de vue financier. Et donc nous ne pouvons pas, bien sûr, si je puis dire, donner suite à des raisonnements justes. On ne peut pas, disons, obliger les Américains à appliquer ce qu'est la justice, car nous avons nous-mêmes été victimes, vous savez, nos banques l'ont été en tout cas, des sanctions américaines, après que sanctions tout à fait grossières, bien sûr, contre nous, pour des banques qui disons, selon les Américains, disons, enfreignaient le blocus financier. Pour d'autres pays qui sont comme l'Italie, l'Allemagne, etc., qui sont beaucoup plus aussi engagés que nous, parfois même davantage avec l'Iran, il y a également des pressions très fortes. Sur l'Allemagne, ces pressions sont évidemment peut-être plus difficiles, mais elles sont réelles. Il y a plusieurs moyens, disons, de faire taire, disons, nos gouvernements occidentaux. Ce sont, disons, des pressions de tous ordres, hein. Pas seulement économiques ou financiers, mais il y a également des pressions politiques. Il y a également aussi, on peut dire, des personnes qui sont très liées, évidemment, aux entités sionistes et autres, qui bloquent, évidemment, qui essaient de paralyser nos relations. C'est pour cela que nous avons, pour dire brièvement, salué, nous, avec vraiment grand soulagement et un grand espoir, surtout, cette initiative japonaise, cette critique japonaise, voyez-vous, en tenant compte du fait que, justement, depuis quelque temps, nous remarquons que le Japon a des initiatives très heureuses en Asie pour pouvoir, disons, de constituer une force autonome qui soit, ils sont obligés, vous savez, de subir le parapluie américain, mais nous voyons très bien que le Japon est uni, en tout cas, dans la défense de ses propres intérêts, et donc comprend les intérêts de l'Iran, avec lequel il a toujours été en excellente relation sous tous les régimes, je me permets de le signaler, y compris avec l'Afghanistan. Le Japon, à mon avis, a toujours été très sérieux, très honnête avec l'Iran, et je crois que ça, M. Dupré a fait allusion, bien sûr, à ce blocage financier qui est imposé par les Américains aux Japonais, et les Japonais, bien sûr, trouvent ceci, comme nous tous, bien sûr, tout à fait absurde. Ce n'est pas simplement une position de force et de violence, c'est une position qui est absurde du point de vue de la durée des relations internationales. Alors nous demandons, c'est la question que nous posons, qu'est-ce qui empêche les Américains, disons, d'œuvrer dans le sens du réalisme? Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes entravés par des forces externes et internes qui les empêchent, disons, de voir les choses comme elles sont? Et en tout cas, j'insiste que pour nous, cette déclaration du ministre des Affaires étrangères japonais est un signe d'espoir. Un signe d'espoir pour vous, pour l'Europe aussi. Et je crois qu'on ne souligne pas suffisamment, on le dit quelquefois, mais qu'on ne souligne pas suffisamment justement cet exemple d'indépendance que le Japon a manifesté en dépit des occupations, en dépit de toutes les humiliations qu'il a subies. y compris à Fukushima, parce que l'histoire de Fukushima, on sait très bien maintenant qu'elle n'est pas innocente. Disons, les Américains ont joué là-dessus pour pouvoir briser justement des volontés d'indépendance japonaise. En tout cas, c'est un espoir, c'est un grand espoir.
Nous avons perdu, semble-t-il, notre liaison avec Toulouse, avec M. Dortiguet. M. Dupré, vous l'avez dit en quelque chose, que voilà, les Européens critiquent les manquements de la partie européenne. Même chose pour les Japonais également. Monsieur Dupré, alors les Européens et les Japonais également sont en quelque sorte, comme l'a dit Monsieur Dortiguet, victimes de cette politique hégémonique américaine parce qu'ils ont peur des sanctions américaines, Monsieur Dupré, n'est-ce pas?
Oui, ça c'est très clair. Nous sommes dans une situation de dépendance hégémonique. Ça, c'est très évident. Cependant, je pense qu'à l'intérieur de la dépendance, il y a toujours moyen de se ménager des marges d'autonomie. Je rappelle que nous étions en Europe très dépendants sur le plan militaire des États-Unis dans les années 60. Et c'est à cette époque que le général de Gaulle, en France, avait aménagé une forme d'autonomie militaire assez importante, assez conséquente d'ailleurs, pour la France. Donc, on peut être dépendant, mais on n'est pas complètement dépendant non plus. Et sur le point qui était évoqué ici, il est vrai que les grandes banques européennes, et je pense notamment à la banque BNP Paribas, une banque française, avaient dû régler plusieurs milliards de dollars d'indemnisation pour avoir effectué des paiements et des transactions donc, avec l'Iran. Cependant, la Commission européenne, lorsqu'elle avait monté un STEX, avait quelque part créé une banque qui était une caisse de compensation qui était exclusivement libellée en euros. Donc, il n'y avait pas spécialement de crainte à avoir de sanctions, puisqu'il n'y avait aucun mouvement de compensation qui était effectué en dollars. Tout se passait en euros. Mais il est vrai que la résistance politique, pour l'instant, nous fait défaut en Europe, spécialement vis-à-vis de Donald Trump, qui avait toujours tendance à dire aux États européens: eh bien, si vous ne faites pas en matière de politique étrangère ce que nous, États-Unis, désirons, vous devrez payer une partie de votre défense. C'était peut-être l'occasion à cette époque pour les Européens de revisiter, remettre en cause leur dépense militaire, leur dépendance militaire à l'égard des États-Unis et d'avoir un autre rapport avec la Russie. On a, passez-moi l'expression, loupé cette opportunité. Bon, voilà. Mais c'est vrai, nous sommes victimes de... Nous sommes sous hégémonie américaine, mais il y a toujours moyen, même quand on est sous hégémonie, de s'aménager des zones d'autonomie. Et ça, je crois que ça a été une erreur de la diplomatie européenne, et ça correspond clairement à un manque de volonté politique. Il y a un manque de volonté politique aujourd'hui, et qui correspond globalement à la perception d'un danger qui viendrait de la Russie. On a besoin d'être protégé par les Américains, alors que l'avenir de notre continent est un avenir eurasiatique, dans le prolongement des routes de la soie avec la Chine. C'est l'avenir économique de l'Europe occidentale, pourrais-je dire.
Monsieur Dortiguet, Monsieur Dupré, en fait, l'a dit à Téhéran, le ministre nippon des Affaires étrangères a dénoncé les exigences excessives des États-Unis. Vous l'avez qualifié vous-même d'un espoir pour l'Iran également, pour l'Europe, les relations entre l'Iran et l'Europe. Et M. Dupré estime que ça y sent, si vous voulez, des moyens permettant à l'Europe de renforcer son indépendance économique également, c'est de se tourner vers des pays comme la Russie et la Chine. M. Dupré estime que voilà, l'avenir du continent européen se trouve désormais dans, si vous voulez, l'eurasiatique. Et est-ce de votre avis également, c'est-à-dire que de cette déclaration du ministre nippon des Affaires étrangères renforce l'espoir d'aller vers, si vous voulez, de cette émancipation si vous voulez, l'hégémonie américaine en ce qui concerne les Européens, les Iraniens, les Japonais Français, les Asiatiques et le reste du monde.
Oui, oui, en effet, M. Norostine, vous savez que la formule du général de Gaulle, du président de Gaulle, était l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ensuite, vous avez, on a dit, de l'Atlantique, de, non pas jusqu'à l'Oural, jusqu'à Vladivostok. En réalité, ce sont des puissances réelles. Des puissances, il faut que les peuples vivent tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. C'est-à-dire tels que quelques groupes financiers qui dirigent la planète ou qui ambitionnent de diriger la planète voudraient le faire. Ceci est une vision très subjective et qui se heurte à la réalité. De ce point de vue, le Japon, qui a été, vous savez, frappé de façon odieuse à la fin de la guerre, qui a été, disons, occupé, qu'on a voulu humilier, a toujours montré un caractère, disons, un exemple de fierté et d'indépendance, ne serait-ce qu'en conservant ses institutions traditionnelles, et aussi, malgré cette occupation très dure, malgré la guerre de Corée et tout ça, nous donne cet exemple de, comment vous dire, de respect de soi-même. Je crois que c'est cela, cette morale-là, dont on a besoin. On n'a pas besoin seulement de règles économiques, on a besoin également de règles morales, de sentiments du devoir. Et c'est pour, ou d'exemples, disons, et, qui vont dans ce sens, qui aillent dans ce sens. Je crois que cette déclaration du ministre nippon des Affaires étrangères fera date dans l'histoire. Et qu'elle est réaliste, on ne peut pas dire autre chose. C'est-à-dire qu'elle montre que nous ne vivons que par la crainte, que sous la crainte que nous inspirent des gens, mais qui sont en réalité des craintes qui ne s'appuient sur rien, qui ne s'appuient pas sur la réalité. Les Américains n'ambitionnent aucunement, évidemment, d'écraser l'Europe à coups de bombe. Mais ce sont des intimidations, disons, que nous avons. Et contre l'intimidation, il faut opposer le courage. Voilà exactement, disons, ce que je retirerai comme conclusion, disons, comme leçon, disons, de cette intervention japonaise. Elle doit servir d'exemple, de courage, de réconfort et de leçon, y compris surtout à nos jeunes générations.
Monsieur Dupré, à Téhéran, Amir Abdullahian, l'assistant actuel dans les affaires internationales du président du Parlement iranien, qui est proposé, comme je viens de le dire tout à l'heure, par le président Raïsi au Parlement iranien pour occuper le poste du futur ministre iranien des Affaires étrangères. Lors de sa rencontre avec le ministre nippon des Affaires étrangères, s'agissant de ses négociations de Vienne, a dit que voilà, l'Iran n'est pas opposé aux négociations, mais l'Iran exige que ces négociations aboutissent aux résultats tangibles. L'Iran n'est pas pour des négociations c'est-à-dire des négociations à l'usure. Comment expliquer cette position de M. Amir Abdullahian, qui sera très probablement le futur ministre iranien des Affaires étrangères après le vote de confiance des parlementaires iraniens?
Je crois que cette position est une position très cohérente, puisqu'en réalité, les États-Unis, jusqu'à présent, n'ont jamais démontré leur volonté réelle de débloquer le dossier. Et donc, il faut pouvoir, face aux États-Unis, faire preuve de fermeté pour obtenir des résultats. Si vous voulez, il faut surtout, quand on est en négociation serré avec les États-Unis, j'ai presque envie de dire, ne pas ressembler aux dirigeants européens actuels qui ont très vite tendance à accepter les termes de la négociation, à se laisser enfermer quand ils ont des revendications dans des négociations qui durent très longtemps pour n'aboutir souvent qu'à très peu de résultats, des résultats très insatisfaisants. Donc c'est une position qui est une position qui permet réellement d'obtenir des concessions de la part des États-Unis. De toute manière, je crois qu'il faut être très clair, en termes, vraiment, en prenant un maximum de recul et d'objectivité par rapport au dossier. Si Joe Biden, président des États-Unis, disposant d'une majorité au Congrès, dans les deux chambres, Chambre des représentants et au Sénat, avait réellement voulu faire avancer ce dossier, nous serions on ne serait pas du tout dans ce cycle qui a l'air de se répéter et de se répéter. Donc je pense que la fermeté iranienne est finalement le meilleur gage pour aboutir à des résultats, puisque les États-Unis ont tendance à vouloir en commissionner les choses de manière à ne pas léser certains de leurs amitiés au Proche-Orient, amitiés qui sont vis-à-vis de l'entité sioniste ou de l'Arabie saoudite, mais qui sont quand même tendues. Ce sont des pays qui ont des relations tendues avec l'Iran et ils n'ont pas envie de s'aliéner ses alliés. Et donc, forcément, ils ont tendance à vouloir faire traîner les choses. Il faudra quelque part, passez-moi l'expression, secouer le cocotier, imprimer une forte dose de cohérence et de fermeté pour obtenir des résultats. Je ne vois que cela comme technique de négociation.
Monsieur Tortiguet, très très rapidement, s'il vous plaît, en une phrase, parce que nous avons une minute devant nous. Est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme Monsieur Dupré, que la fermeté face aux États-Unis et de la part de l'Iran, c'est le meilleur gage pour obtenir des résultats tangibles?
Oui, en effet, car les négociations ne doivent pas être, comme le veulent les États-Unis et leurs amis, une occasion, un horizon de chantage permanent contre l'Iran. Elle doit être quelque chose de réaliste. Et non pas du tout une pression constante. Voilà exactement. Il faut sortir, disons, des fantômes, des fantasmes pour toucher à la réalité. Monsieur Dupré l'a très bien dit, et je crois que c'est ce que veut dire aussi, c'est ce que veut dire également le ministre nippon des Affaires étrangères. Et je crois que ce point de vue, l'Iran a très très bien compris. C'est où sont ses amis. C'est que sa force, la force de l'Iran, est dans la réalité et non pas dans, disons, l'abaissement devant un chantage qui serait indéfini.
Pierre Dortiguet, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Xavier Dupré, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
La France juge nécessaire un délai supplémentaire du 31 août pour mener à bien les évacuations de personnes à risque d'Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans, a indiqué lundi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Nous sommes préoccupés de la date butoir fixée par les États-Unis le 31 août. Un délai supplémentaire est nécessaire pour mener à bien les opérations en cours, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Quelles sont les craintes de Paris et comment évaluer les raisons de cet aventurisme militaire de Paris et son suivisme à l'égard des États-Unis en Afghanistan? Décryptage avec notre géopoliticien Luc Michel.
Il faut comprendre tout d'abord que l'Afghanistan, ça a été un piège pour les armées de l'OTAN. C'est-à-dire que les Américains ont englué les armées de l'OTAN dans un piège stratégique. Et la défaite n'est pas tellement une défaite américaine qu'une défaite de l'OTAN. La conséquence immédiate, c'est qu'on ne parlera plus en Europe d'une défense européenne indépendante. C'est tout bénéfice pour les Américains. Deuxièmement, littéralement, les Américains, ils s'en vont en laissant une bombe géopolitique. Ils sont en train de collaborer pour amener en moins d'une semaine les talibans au pouvoir. Et ils sont notamment en train de collaborer pour l'évacuation, mais également en train de collaborer à des opérations militaires contre Daesh, qui est le grand ennemi des talibans. Tout cela, évidemment, est très mauvais pour les Européens. Et bien entendu, pour les Américains, il s'agit d'empêcher quelque chose. Ça fait partie de leurs accords avec les talibans qui ont été menés à Berlin et à Doha. Il s'agit d'empêcher que l'ancienne alliance du Nord, c'est-à-dire les Tadjiks de la vallée du Panjshir, puissent se restructurer militairement, notamment avec l'appui de la Russie et de la Chine, et puissent combattre les talibans. La région est encerclée actuellement, et les gens du Panjshir n'ont pas encore reçu d'assistance militaire. La France est directement impliquée dans ce projet-là. On a même revitalisé Bernard-Henri Lévy. Vous savez que Bernard-Henri Lévy est un de ceux qui ont contribué à amener les islamistes au pouvoir en Afghanistan, notamment le fameux soi-disant Shah Massoud, qui n'était pas un démocrate, mais un chef de la guerre islamiste, un seigneur de la guerre, et c'est son fils maintenant qui est aux affaires, toujours soutenu par le Quai d'Orsay. Voilà donc ce qui est en train de se passer. La France essaye de gagner du temps, et elle essaye que la totalité du pouvoir ne soit pas remise par les Américains aux talibans. Au milieu de tout cela, les populations afghanes, leur bien-être, leur sécurité, leur avenir ne comptent pas. Les Américains se sont servis d'eux comme d'un citron. Le citron est pressé, on le jette. Et la stratégie irresponsable des Français, elle débouche sur un désastre. Il y a actuellement un grand débat d'ailleurs en France. Il y a un piège supplémentaire au milieu de tout ça. C'est que les gens qui appartiennent à cette gauche qui est proche de George Soros, etc., elle veut que la France accueille des milliers de réfugiés afghans comme l'Allemagne, mais ce piège de l'immigration sauvage, c'est un piège tendu à l'Europe. Il s'agit, comme en 2016 avec les réfugiés syriens, de fracturer les sociétés occidentales, d'amener à l'émergence de forces d'extrême droite qui vont s'opposer au régime pro-Union européenne, mais surtout, il y a le danger de terrorisme. Vous avez vu qu'on a rapatrié dans le premier avion pour Paris, c'est le scandale du moment, on a rapatrié des dirigeants talibans et l'un de ceux-ci vient d'être jugé en comparaison rapide à Paris. Il s'était enfui de la zone où il était en résidence surveillée, malgré la sécurité antiterroriste et malgré les dispositions anti-Covid. Donc Le Drian, il se rend compte qu'il a été plongé dans une catastrophe, dans un piège, et il essaye avec Macron d'y faire face. À mon avis, il n'y arrivera pas, évidemment.
La chute de Kaboul donne lieu à de terribles scènes de fuite et de désespoir. Laissons de côté le fait que les fuyards ne soient majoritairement pas des pacifiques traducteurs des ambassades occidentales, mais des collaborateurs de la contre-insurrection états-unienne aux mains dégoulinantes de sang. Ce que nous voyons est une débâcle qui devrait nous faire perdre foi en la puissance de l'Amérique. 51% des États-Unis désapprouvent la politique étrangère du président Joe Biden. 60% désapprouvent particulièrement sa politique vis-à-vis de l'Afghanistan. 63% affirment que cette guerre ne valait pas la peine d'être livrée. La presque totalité des Américains qui ont combattu en Irak est très choquée. Pourtant, au pire, il est clair que Washington savait parfaitement que l'armée afghane ne tiendrait pas face aux talibans, en théorie, trois fois moins nombreux et beaucoup moins bien équipés. Le CTC de West Point avait publié une étude en janvier pour annoncer cette catastrophe prévisible. La question n'était donc pas de savoir si les talibans allaient gagner, mais quand le président Biden les laisserait gagner. Il faut interpréter les négociations USA-Taliban qui s'éternisent depuis des années et ont soudain été conclues par le président Biden comme l'abandon volontaire du pouvoir aux talibans. On peut alors s'interroger sur le fait que des morts par centaines de milliers, des sommes astronomiques et des efforts de quatre présidents successifs ont été nécessaires à Washington pour chasser les talibans de Kaboul, puis les y faire revenir et se demander pourquoi le président Biden a décidé d'assumer le rôle du vaincu. La même incompréhension se posait lorsque la commission Baker-Hamilton avait conduit au retrait US d'Irak et que le secrétaire à la défense de l'époque, Donald Rumsfeld, avait assumé sans hésitation le rôle du vaincu. Incompréhension qui persistait encore il y a 3 mois lors du décès du dit Rumsfeld. Il est temps d'arrêter d'écouter les politiques et de lire les militaires. Les responsables politiques ne nous disent que ce que nous pouvons accepter d'entendre. Nous sommes toujours du bon côté et nous ne mourrons que pour la démocratie. Les militaires, eux, ne cherchent pas à nous séduire, mais à comprendre ce que l'on attend d'eux. Ils n'écrivent donc pas pour flatter nos illusions, mais exposent la vérité sans fard. La guerre d'Afghanistan, qui devait durer jusqu'à la fuite d'Oussama Ben Laden, dure maintenant depuis 20 ans. Que celle d'Irak, qui devait durer jusqu'à la chute du président Saddam Hussein, dure maintenant depuis 17 ans. Que celle de Libye, qui devait durer jusqu'à la chute du guide Muammar Kadhafi, dure depuis 10 ans. Que celle de Syrie, qui devait durer jusqu'à la chute du président Bachar al-Assad, dure depuis 10 ans. En outre, nous avons vu Al-Qaïda historiquement une création de la CIA et Daesh historiquement une création de l'ambassadeur John Negroponte, commettre des crimes contre l'humanité, allant tous dans le sens annoncé par le colonel Ralph Peters. Et nous savons que ces organisations terroristes sont financées, armées et encadrées par les Britanniques et les États-Unis. Oui, la guerre sans fin, déclarée par le président George W. Bush, ne vise pas à lutter contre le terrorisme, mais à instrumenter le terrorisme pour déstabiliser une région tout entière. C'était le titre de l'article du colonel Peters en 2001, « La stabilité, c'est l'ennemi de l'Amérique ». Ceci étant acté, nous devons réinterpréter donc la chute de Kaboul au regard de cette nouvelle stratégie. Durant 2 ans, en 2002-2003, l'amiral Arthur Sebrowski est allé expliquer donc dans toutes les académies militaires américaines cette fameuse nouvelle stratégie. Il a rencontré la totalité des officiers généraux américains actuels et cette stratégie a été vulgarisée pour le grand public par l'assistant de Sebrowski, Thomas Barnett. Certes, son livre n'a pas encore été traduit. La chute de Kaboul répond donc à l'objectif central de cette stratégie à la condition que les talibans ne parviennent pas à fonder un régime stable et sans alliés, ils ne pourront pas y parvenir. Et la fuite des collaborateurs de la contre-insurrection des États-Unis, s'ils parviennent à se faire passer pour de pacifiques traducteurs, permettra d'étendre le terrorisme dans les pays qui les accueilleront. C'est déjà ce que dénonce le président Vladimir Poutine. Le transfert du matériel militaire donné à l'armée afghane aux mains des talibans leur permettra d'attaquer leurs voisins. À la différence de Daesh, les talibans disposent dès à présent d'un fichier biométrique de presque toute leur population et d'une armée de l'air avec une flotte de plus de 200 avions de combat. La guerre en Asie centrale sera donc bien plus terrible encore que celle au Moyen-Orient élargi. Dernière chose, et non des moindres, certains commentateurs estiment que Washington a abandonné l'Afghanistan afin de créer des problèmes à la Russie et à la Chine. Ce n'est pas du tout la stratégie Rumsfeld-Sebrowski. Selon ce dernier, il ne faut pas combattre ces grandes puissances, mais au contraire, les transformer en clients. Il faut les aider à exploiter l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie et bien d'autres encore, mais uniquement sous protection de l'armée américaine. Comprenez bien, Washington ne raisonne plus en rival de l'Empire romain, mais en racketteur. Il ne construit nulle part d'arc de triomphe à sa gloire et accepte même que son président Joe Biden soit vaincu en Afghanistan. Il cherche à dominer le monde dans l'ombre et à engranger le maximum de capitaux.